Europe 1. 14h-15h,
on de la traconte sur Europe 1.
C'est un chiffre qu'on ne donne jamais. Tous les 14 jours et demi, un homme meurt en France sous les coups de sa conjointe. Alors bien sûr, pour les femmes c'est pire, il meurt une femme tous les 3 jours. Mais deux hommes qui meurent tous les mois, battus par leur femme dans notre pays, ça n'est pas rien. Surtout si on y ajoute la longue liste de ceux qui survivent, comme Maxime, dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Il a bien failli y passer. Il s'en est fallu de peu, de très peu. Il a fallu 8 opérations, vous entendez, 8 opérations pour lui rendre visage humain au terme des 2 années qu'il a passées avec Zakia. Alors comment l'a-t-il rencontré, Zakia? Eh bien comme on rencontre les filles aujourd'hui, sur Internet, pardi. En 2007, Maxime, qui a 29 ans, qui vient de débarquer de sa Charente natale, à Paris, et qui n'y connaît pas grand-chose aux femmes, et même rien du tout pour être honnête, s'inscrit sur le site affection.org. Et un samedi, il décroche un rancard dans une brasserie de la place de la Nation. Il arrive avec 1 heure d'avance, et il attend, un peu timide. Il cherche l'amour, le plus naïvement du monde. Il cherche l'amour, et il aurait pu le trouver. Avec de la chance. Malheureusement, il est tombé sur Zakia. C'est la brune, là, qui s'avance vers le bistrot. C'est avec elle qu'il a rendez-vous. Vous savez ce qu'il pense, lui, quand il la voit arriver? Ah ben au moins, elle ressemble à la photo. Eh oui, c'est toujours rassurant. Des fois, on se fait avoir. Mais elle, elle est comme sa photo. Brune, des cheveux noirs corbeaux qui tombent jusqu'à la taille, un je ne sais quoi d'oriental, un peu rondelette, jean, basket, oh pas la grande classe, hein. Mais au moins, elle ressemble à la photo. Avant qu'ils se rencontrent tous les deux, qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Zakia est parisienne. Elle a 7 ans de plus que Maxime, et donc 36 ans. Ah, important, elle a 2 enfants. Et elle est au RMI. Pour l'instant, contentez-vous de ça. Et les voilà donc à la table de ce bistrot. Zakia n'est pas venue seule, elle est venue avec une copine, Milena. Elle commande un demi, Milena prend un whisky.
Et toi Maxime, tu bois quoi?
Ben, un café
et un verre d'eau s'il vous plaît.
Vous voulez savoir ce qu'il pense de ces 2 filles? Pile à ce moment-là, il les trouve vulgaires, extraverties. À un moment, elles se mettent à taquiner un client de la table d'à côté. Zakia lui passe même la main dans les cheveux. Et le type, ça l'amuse, il se laisse faire. Vulgaires. Il les trouve vulgaires. Après quoi, les filles le traînent à un barbecue. Il y a plein de monde, Maxime ne s'y sent pas très à l'aise. Alors vers 22h, il tente de filer à l'anglaise.
Hé Maxime, ben reste un peu, t'as qu'à venir dormir chez moi.
Ben c'est gentil, mais on se connaît pas très bien.
Oh, c'est juste pour dormir, hein, t'inquiète pas.
Oui, oui, je sais.
Bon, d'accord.
Et c'est comme ça qu'à 5h du mat, Maxime se retrouve chez Zakia, dans son studio du boulevard Voltaire, à Paris. Les enfants sont chez la grand-mère. Ils bavardent un moment, et puis à un moment donné, elle déplie le clic-clac, et il se glisse sous la couette. Maxime n'a jamais dormi avec une femme. Il reste figé, sur le dos. Alors elle prend sa main, et elle le guide. Il écrira... Je ressens l'étrange sensation d'être pris d'assaut. La chose est relativement plaisante. Il est passé à la casserole. Il se revoit quelque temps plus tard, un week-end, et puis un jour, elle l'appelle.
Ben, tu pourrais venir t'installer à Paris, chez moi?
Avec toi? Chez toi?
Ben oui, on s'arrangera.
Écoute, je sais pas.
Si t'attends trop longtemps, j'irai voir ailleurs.
Il attend quand même un peu. le temps d'avoir son diplôme d'informatique. Et en octobre, 3 mois après l'avoir rencontré, il va s'installer chez elle. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. 30 mètres carrés. Le studio fait 30 mètres carrés, et ils sont 4, parce qu'elle est de gosses, et c'est pas des bébés, 2 jumeaux de 11 ans. Un garçon et une fille, Cédric et Océane. Ce qui n'empêche absolument pas la nuit venue, Zakia de repartir à l'assaut de Maxime.
Oh, les enfants dorment, je te dis.
Et voilà le programme. Qui fait le ménage? Eh ben Maxime. Qui va récupérer les enfants à l'école? Qui les aide à faire leurs devoirs? Maxime. C'est ça le plan. Elle passe sa sainte journée sur Internet en écoutant du rap à la télé. Et lui, eh ben il fait tout le reste. Un jour aux catastrophes, l'ordinateur de Zakia tombe en panne.
Et Max, tu me prêtes ton portable? Ben oui, bien sûr. C'est quoi ton mot de passe?
Et maintenant, elle peut lire ses mails. Et lui, il n'y voit pas à mal. Dans un couple, il faut de la transparence. C'est normal. Un autre jour, Maxime, Zakia et les enfants font des courses au supermarché. Au moment de passer à la caisse, la carte bancaire de Maxime ne fonctionne pas.
Ben donne-moi ta carte. Allez, donne-moi ta carte. Je vais aller retirer au distributeur. C'est quoi ton code? 23-56.
Et de retour à la maison.
Tu sais quoi? Je vais la garder, ta carte. Ça sera plus simple pour les courses et tout.
Maxime est amoureux. Il a confiance. Il accepte. Il accepte même que Zakia gère son compte en banque. C'est une preuve de son engagement. Et puis arrive le réveillon du 31 décembre. La mère et le frère de Zakia sont invités. Ils n'ont pas eu beaucoup de chemin à faire. Ils habitent dans le même immeuble, sur le même palier. Et au cours de la soirée, Zakia se met à picoler avec son frère, du whisky. Et après, elle se roule un pétard. Et quand le frérot et la maman sont partis, elle devient hargneuse. Et d'un coup, elle se rue sur Maxime, elle l'attrape par la chemise et elle lui colle une baffe, une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Maxime est sidéré. Elle lui fait tellement peur, il n'ose pas bouger. Et là, elle le plaque contre le mur et elle le gifle de plus belle. Et à un moment, elle se calme. Elle s'assoit sur le canapé.
Si tu m'avais pas énervé aussi, c'est ta faute.
Tout ça devant les enfants qui sont interloqués. Et ensuite tout le monde se couche avec le rap à la télé en guise de berceuse, comme tous les soirs. Et Zakia lui demande de lui caresser les cheveux. Et Maxime se dit que ce qui vient de se passer n'était qu'une erreur de parcours. À part ça, qu'est-ce qu'il fait Maxime? Eh bien il travaille. Il vient de décrocher un CDI dans une grosse boîte d'informatique, Accenture Technology Solutions. Il commence en janvier 2008. Sauf que Zakia garde la carte bancaire, bonne âme. Elle lui donne 2 tickets de métro par jour et 4 euros pour déjeuner. Avec ça, vous n'allez pas loin, un mauvais sandwich, rien de plus. Il faut que je vous dise, Zakia lui a pris aussi sa carte d'identité. Donc si on fait le bilan, ça fait 4 mois qu'il est chez elle. Il n'a plus d'ordinateur, il n'a plus de mail, il n'a plus de carte bancaire, il n'a plus de papier d'identité. Il ne lui reste que son téléphone. Un dimanche, ça dégénère à nouveau. À 10h du matin, Zakia se roule un gros pétard et elle met du rap à fond. Et Maxime choisit de faire le dos rond, il fait le ménage, il passe le balai, il passe la serpillière. Et ensuite, il s'occupe des enfants. Et à un moment, il joue à cache-cache avec eux. Et il attrape Cédric, qui est caché derrière des manteaux. C'est un jeu! Et là, Zakia se met à hurler.
Tu l'as frappé, là? Touche pas, mon fils, hein? Tu te prends pour qui?
Et elle se jette sur Maxime, et elle le plaque contre le mur, et elle se met à lui asséner, non pas des claques, mais des coups de poing. Elle le frappe jusqu'à perdre haleine, et lui en face, il lit dans ses yeux de la haine, et ça le paralyse. Au bout de 10 minutes, elle retrouve son calme. Maxime a le visage en sang. À ce moment-là, une voisine sonne à la porte.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du bruit, des cris. Oh, mais c'est Maxime. Il s'est fait agresser dans le couloir par deux types. J'ai juste eu le temps de lui ouvrir. Ils l'ont pas raté, hein. Il s'est fait agresser. Mais alors, faut prévenir la police. Ah ben oui, 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 je l'appelle tout de suite.
Et elle appelle la police. Et trois policiers débarquent. Et Zakia leur sert la même version. Les deux types dans le couloir. Et lui, Maxime. Eh ben, il confirme.
Ah ben, je sais pas. J'ai été frappé par surprise.
Les policiers appellent les pompiers qui emmènent Maxime à l'hôpital Saint-Antoine. Il est tellement amoché qu'ils le gardent en observation toute la nuit. Et quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? L'idée de porter plainte au commissariat lui effleure l'esprit. Mais Zakia lui a dit qu'elle avait des amis flics au commissariat du 11e. Alors il n'ose pas. Il pourrait se réfugier chez ses amis de Champigny ou prendre un train pour la Charente chez ses parents. Mais comme il n'a pas un sou en poche, comme il n'a pas non plus ses papiers, comme un robot, il prend le chemin du studio. Par peur, par lâcheté, peut-être par masochisme, il n'en sait rien. En tout cas, il rentre à la maison. Et puis un matin, il a le malheur d'oublier son téléphone portable à la maison. Quand il rentre le soir, il le retrouve en miettes. Elle l'a détruit, son dernier moyen de communiquer avec le monde extérieur. Et très vite, il n'y a plus de monde extérieur. Un jour, Maxime part travailler.
Zakia, où sont les clés? La porte est fermée. T'en as pas besoin. Tu restes là. Mais je dois aller travailler. Tu restes là, je te dis.
Et forcément, après plusieurs jours d'absence injustifiée au travail, le couperet tombe. Maxime est convoqué par son patron.
Monsieur Gagé, l'entreprise a décidé de vous licencier. Pour faute.
Le piège se referme. Maxime a perdu toute existence sociale. Il est totalement à la merci de Zakia. Il est devenu sa chose. Et d'ailleurs, par une nuit glaciale de février 2008, 8 mois après leur rencontre, elle le vire du clic-clac. Maxime se retrouve à dormir par terre, dans l'entrée du studio, sans oreiller et sans couette, avec un pull en guise de coussin et le blouson de cuir que lui ont offert ses parents comme couverture. Et comme si ça n'était pas assez, le lendemain soir, elle lui dit
« Déshabille-toi. Va prendre ta douche. »
Et là, elle ouvre l'eau froide en grand. L'eau froide, et rien que l'eau froide. Et lui, il supporte, il serre les dents. Et le jour d'après, elle attrape un couteau de cuisine et elle le pose sur la plaque de cuisson, thermostat neuf.
« Je te donne deux façons pour te rattraper. »
« Me rattraper de quoi ?»«
Sinon, t'as le droit à une autre douche froide. Soit c'est le couteau brûlant. »
La douche, il ne veut plus. Alors comme un automate, il déboutonne la manche droite de sa chemise et il tend son avant-bras. Et elle applique la pointe du couteau sur sa peau. Et lui, il serre les dents, il ne crie pas, il ne geint pas, il encaisse. Alors vous vous dites, il pourrait appeler au secours, appeler quelqu'un, mais qui ? Ses parents ? Elle ne le laisse les appeler que pour leur réclamer de l'argent. Ses amis, alors ? Maxime n'en a pas beaucoup. Elle l'a laissé en appeler un seul. Mais quelques minutes, il ne lui a rien dit. Il a honte. Une seule personne, finalement, lui vient en aide. C'est Ouda, la mère de Zakia, qui vit sur le même palier. Elle lui apporte une couette, un oreiller, des vêtements et à manger de temps en temps. À partir de mi-mars 2008, 9 mois après leur rencontre, Zakia interdit à Maxime l'accès à la salle de bain et aux toilettes. Alors Maxime doit aller faire ses besoins en cachette dans les WC communs de l'immeuble et se débarbouiller au robinet de la cour, dehors, devant tout le monde. Là-dessus s'ajoute une humiliation de plus. Zakia a recommencé à draguer sur Internet. Elle ramène des hommes dans le studio. Le premier, c'est Gérard. Et le soir où il débarque, elle envoie Maxime dormir dans un cagibi sur le palier. 1,50 m de long, 75 cm de large.
Et si tu sors de là, je te casse la tête.
Elle est en train de le détruire à petit feu. Jusqu'où est-elle capable d'aller? Un jour, elle achète une bouteille d'acide chlorhydrique et en pleine crise de fureur, elle lui colle le goulot de la bouteille ouverte sur les lèvres. Et lui, il serre les lèvres. Les enfants sont à côté.
Maman! Maman, arrête! Arrête, s'il te plaît! Il n'en vaut pas la peine!
Il n'en vaut pas la peine. Voilà l'argument qui fait plier Zakia. Il n'en vaut pas la peine. Un autre jour, il est en train de faire le ménage, elle tente de passer, elle trébuche et elle s'étale sur le clic-clac. Alors elle se précipite dans la cuisine, elle empoigne un couteau et elle le lui colle sous la gorge.
Maman! Maman, arrête!
Les deux gamins, 11 ans, se jettent sur leur mère pour retenir sa main. Une autre fois, elle lui explose le nez, le sang gicle, les enfants se mettent à crier, alors elle leur colle des coups de poing, au point que la petite Océane se retrouve aveugle pendant quelques minutes.
« Je vois plus rien, maman! Je vois plus rien !»
C'est Maxime qui la réconforte, jusqu'à ce qu'elle retrouve la vue. Et tous les trois, Maxime, Océane et Cédric, finissent prostrés dans un coin du studio. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Pourquoi est-ce qu'il ne s'enfuit pas? Lui, il reste pour les enfants. D'autant qu'un jour, elle lui a dit
« Si tu pars, je dis à mes potes flics que t'as touché mes gosses !»
On est en janvier 2009. Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'ils sont ensemble. Et maintenant, Zakia boit tous les jours. Et elle fume des pétards. Un samedi, elle ne trouve pas sa boulette de shit. Alors, c'est de sa faute, évidemment. Elle lui taillade l'arrière du crâne, devant les enfants.
Débrouille-toi pour me trouver une barrette de shit! Vas-y!
Maxime se retrouve en sang dans la rue. Et là, il croise des policiers.
S'il vous plaît? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai été agressé dans la rue.
Maxime finit à l'hôpital où il est opéré. Et une fois de plus, il ne dit rien. Et quand il sort, au bout de 3 jours, il rentre chez Zakia. À moins d'un miracle, il va y laisser sa peau.
Un soir de février 2009, Cédric et Océane, les deux gamins qui ont maintenant 12 ans, viennent chuchoter à l'oreille de Maxime.
Max, tu veux bien si notre oncle te prend en photo? C'est pour envoyer à tes parents, Max. Faut les prévenir très très vite. D'accord. Mais quand? Demain, hein? Quand t'iras faire tes courses.
Et le lendemain, l'oncle prend la photo à la sauvette sur le palier. Et il appelle la mère de Max.
Allô? Oui, bonjour madame. Voilà, je suis le frère de Zakia. Votre fils, là, Max, il est en danger, madame. Si vous voulez le revoir vivant, faut venir vite.
Quelques jours plus tard, Maxime sort faire des courses et quand il rentre, il trouve Zakia en panique.
Tu vas me faire avoir des problèmes, hein? Il y a 2 flics qui sont venus. Ils te cherchent. Tes parents sont là. Tu vas me faire avoir des problèmes.
Mes parents? Ils sont là, mes parents?
Zakia tourne dans le studio comme une lionne en cage.
Bon. Tu veux les voir ou pas?
Mes parents?
Ah, bien sûr, oui, je veux les voir.
Ok.
Tu vas les voir. À une condition. Tu portes pas plainte. Tu portes pas plainte contre moi. Tu dis rien.
Ok.
Jure-le.
Je le jure. Je porterai pas plainte.
Tiens, prends tes papiers, là. Allez, suis-moi, dépêche.
Et Zakia rattrape les 2 policiers qui sont encore dans la rue.
Et attendez, le voilà, il arrive.
Les policiers conduisent Maxime auprès de ses parents, qui l'attendent un peu plus loin. Son oncle et sa sœur sont là aussi. Maxime s'approche d'eux, en boitant, la tête qui penche, défigurée par les coups et par les brûlures. Les cheveux hirsutes, il est méconnaissable. Et quand il le voit, ils sont tous en larmes, y compris son père qui est un ancien militaire. Voilà, c'est fini. Il le ramène chez eux, en Charente. Et il l'emmène directement aux urgences de l'hôpital. Son corps n'est que plaie, boursouflure, hématome, cicatrice, coupure. En un peu moins de 2 ans, Maxime a perdu 30 kilos. Et c'est une infirmière qui lui ouvre les yeux.
Ah, vous savez, j'ai plus de 20 ans de métier derrière moi. Et sincèrement, vous êtes le second cas le plus grave de violence conjugale que j'ai eu à traiter, ça je vous le jure.
C'est à ce moment-là que Maxime réalise. Alors le lendemain, il va porter plainte. Et quelques mois plus tard, des policiers venus de Paris viennent l'interroger à Angoulême. Et Zakia est placée sous contrôle judiciaire. Et la garde des enfants lui est retirée. Et quelques mois plus tard, la juge d'instruction en charge du dossier organise une confrontation dans son bureau, au palais de justice de Paris. La juge lit tout ce que Maxime a raconté dans ses différentes dépositions.
Qu'en pensez-vous, madame ? S'il le dit, c'est que c'est vrai ?
Elle lui montre des photos du corps meurtri de Maxime.
Oh ben, je suis choqué, là. Là, je reconnais que j'ai pété un plomb, hein. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais comment j'ai pu faire ça ? Sans déconner ?
Zakia est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violence, vol de documents d'identité, escroquerie et menace. Elle échappe aux assises, mais elle risque 5 ans de prison ferme. Le procès se tient en mai 2015 à Paris. L'avocate de Zakia raconte le suicide de son père, la dépression de sa mère, le foyer à 14 ans.
Cette femme est malade. Elle est dépressive. Et depuis, elle a entrepris une thérapie. Il n'y a pas eu de réitération de quelque violence que ce soit, vous en conviendrez.
À la fin, Zakia demande pardon à Maxime. Et le tribunal la condamne à 1 an et demi de prison ferme, puis 1 an et demi avec sursis et 200 000 euros d'indemnisation. Mais le parquet qui avait demandé 5 ans ferme fait appel. Et donc, Zakia est rejugée en 2016. Elle est condamnée à 2 ans ferme, 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve. Elle doit travailler, elle doit se soigner et elle doit indemniser Maxime.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un jeune homme, Maxime Gagé, martyrisé pendant presque 2 ans par la femme qui partageait sa vie, Zakia, et qui, à la fin de cette histoire, a été condamné, Zakia, à 3 ans de prison ferme pour le mal qu'elle vous a fait, Maxime. Vous racontez cette histoire dans un livre publié il y a 2 ans et qui vient de sortir d'ailleurs en livre de poche chez J'ai lu, Ma compagne, mon bourreau. Si on reprend les choses tout au début, vous avez 29 ans et jusque-là, vous avez fait une croix sur l'amour. Pourquoi ?
Ah,
quelle sorte d'homme êtes-vous à ce moment-là ?
J'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Et cela l'est presque sur une partie limite complexée à ce sujet. Je connais avoir été extrêmement timide avec la gent féminine. Il en reste encore quelque part. Mais ce livre, il y a une très large évolution. Maintenant, pour reprendre par rapport à cette époque, j'étais complètement novice en la matière. Sur un plan imagé, en reprenant l'histoire dans sa globalité, je vais utiliser une image propre en informatique. Grosso modo, j'étais un petit peu comme une feuille vierge que l'on glisse dans une imprimante. Et j'en suis ressorti suite à un bourrage papier en quelque sorte. Ça vous donne
J'adore l'image d'informaticien que vous êtes, mais c'est une manière finalement...
Ça n'en reste pas moins la plus évocatrice.
Oui, ça dit les choses et en même temps ça permet de passer à la question suivante. Quand vous acceptez de vivre chez elle, vous vous dites, j'ai 29 ans, il est temps que je vive avec une femme, c'est ça le raisonnement ?
Eh bien, par rapport à la perception que j'en avais, c'était quelque chose auquel j'aspirais profondément, à savoir trouver l'âme sœur et pouvoir fonder un foyer, vivre, travail, enfant, enfin, quelque chose de très classique.
Sortir de la solitude ? Vous vous sentiez seul?
Il y a de cela aussi.
Le fait qu'elle vive avec deux enfants de 11 ans, dans un studio de 30 mètres carrés, là, il y a quelque part déjà, au départ, un signal d'alerte. C'est-à-dire, elle est au RMI. Elle est plus âgée que vous. Elle a deux grands-enfants. Et tout ça vit dans un studio de 30 mètres carrés dans lequel elle vous dit de venir vous joindre à eux. Là, déjà, normalement, tous les voyants sont au rouge. Mais vous êtes aveugle?
Eh bien, comme on dit, comme disait cette citation, l'amour rend aveugle et le divorce recouvre la vue.
Vous êtes amoureux, d'ailleurs. Ému, disons.
À ce moment-là, j'étais particulièrement ému.
Ça vous a secoué, l'amour?
Plutôt pas mal. On va dire que le démarrage en la matière a été quelque peu brutal. Et quand cette histoire a commencé à clairement déraper, aucun signe indicateur ne m'apparaissait clairement. J'étais comme aveugle, complètement aveugle. Je ne voyais rien. Et pourtant, paradoxalement, quand je l'ai rencontré pour la première fois sur cette terrasse de café, j'avais cette petite voix intérieure qui me disait « Bon, Max, tu prends tes affaires et tu prends la tangente de suite. » Et paradoxalement, j'ai pris sur moi d'occulter cette voix en me disant qu'on ne peut pas, je vais employer une image qui est une circonstance, on ne juge pas un livre à sa couverture.
Oui, au physique.
Exactement.
Sa vulgarité, que vous ressentez tout de suite.
Les apparences sont une chose et la partie humaine et psychologique en est une toute autre.
Vous vous donnez une chance, en vérité. Une chance de ne plus être seul.
Oui, c'est assez juste. C'est assez juste.
Au fond, vous êtes prisonnier de votre solitude, quoi. Un peu esclave, déjà.
Alors, il y a un peu de ça, mais il y a également un autre élément à prendre en considération, puisque depuis le départ, elle a en quelque sorte arboré un masque complètement artificiel. Elle se montrait uniquement sous la partie la plus positive.
Vous voulez dire dans les échanges que vous avez eus avec, sur Internet avec elle avant.
Exactement, elle se montrait vivante, gaie, extravertie, ouverte. Bon, peut-être un peu trop extravertie, mais bon, là encore, cela dépend de l'appréciation de tout un chacun. Bref, elle se montrait sous son meilleur jour. Et c'était là, justement, un indicateur que j'aurais dû très lourdement prendre en considération. Il y a une loi mathématique qui est assez simple, tirée d'un film d'ailleurs. À partir où quelque chose semble trop parfait, il y a nécessairement anguille sous roche.
Oui.
Et j'aurais dû lourdement prendre ceci en considération, puisqu'effectivement, il y avait anguille sous roche. Enfin, à ce stade, j'aurais clairement pu parler d'une baleine.
J'adore, parce qu'au fond, vous en tirez toujours par un petit trait d'humour, mais je vous comprends.
Hein. L'humour est une force.
Oui. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi il reste. Vous donnez une première explication dans votre livre, dont je n'ai pas parlé dans mon récit, qui en gros est que vous êtes faible depuis tout petit, que ça tient à la relation dominant-dominée que vous avez construite depuis tout petit avec votre père.
C'est quelque peu inexact, je m'explique. Il y a dans cette histoire par rapport entre mon désormais ex-bourreau et moi, il y a effectivement un rapport qui s'est très vite installé de dominant-dominé. Cela dit, cela s'est fait tout doucement, comme je l'évoquais dans certaines interventions médias, un petit peu comme l'aurait fait un maître d'échecs en posant ses pions un à un jusqu'au moment opportun pour frapper.
Oui.
Et comme j'étais complètement aveugle, je ne voyais absolument pas, justement, je n'avais pas ce recul nécessaire.
Mais ce que je veux dire, ma question était, est-ce qu'au fond, votre vie jusque-là n'est pas celle d'un homme dominé par son père? Manifestement, votre père a une personnalité titanesque, c'est un militaire un peu raide.
Non, mon père, là il s'agissait de mon oncle, qui a été effectivement militaire, fraîchement retraité au moment des faits. Mon père a été cadre supérieur. Et effectivement, il y a eu certaines tensions à un moment donné. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion d'en discuter assez longuement, et cela m'a permis de comprendre justement l'existence de cette tension, qui était avant tout d'origine professionnelle. Et là-dessus, bon, le pardon est total. Bon, maintenant, les erreurs qu'il a eues en tant que père sont tout à fait naturelles. Personne n'a la prétention d'être parfait.
Mais vous racontez aussi que vous avez été toute votre scolarité le bouc émissaire de la salle de la cour de récréation.
Effectivement, parce que trop calme.
Trop calme.
Trop calme, entre autres. Oui.
Ouais. Vous pensez trop calme.
On me le dit assez souvent.
Ou trop faible.
ce n'est pas une question de faiblesse. Maintenant, par rapport au moment où j'ai connu Zaka, effectivement, il y a eu un moment de faiblesse, puisque j'étais sorti d'une relation fraîchement. Cette rupture s'est avérée extrêmement douloureuse.
Une femme que vous avez connue avant?
Oui, effectivement. Et c'est en pleine formation où celle-ci, d'ailleurs, a décidé de mettre un terme définitif à notre relation. Et cela m'a complètement
détruit.
Mis KO debout. Et je connais qu'il y a certainement là eu l'apparition d'une faiblesse dans le sujet, mais à un moment donné. Maintenant, j'insiste sur un point, ce n'est pas parce que l'on a une faiblesse à un moment donné que l'on est faible, nécessairement. Il y a une très grosse différenciation à faire.
Alors évidemment, je vous le disais, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? Et une explication est donnée dans le livre. Vous êtes resté en partie pour les enfants, qui d'ailleurs sont ceux qui vous ont sauvé la vie, parce que c'est bien eux qui vous suggèrent de faire cette photo pour que l'oncle prévienne vos parents. Vous les avez revus, ces deux gamins?
Je les ai revus lors des audiences...
Des deux procès.
Au tribunal, effectivement, mais sinon, non.
Ils vous ont sauvé la vie?
Je leur dois la vie au même titre que je dois la vie aux frères de Zaka, ou même à leur mère. Sans l'intervention de chacun, aussi infime soit-elle, je ne serais pas là pour en parler. C'est une absolue évidence.
Ces deux enfants, alors ça non plus je ne l'ai pas dit, mais elle les avait frappés par le passé. Elle a d'ailleurs été condamnée pour des violences sur ses enfants.
Oui, effectivement, c'est une chose que j'ai apprise lors des audiences. Il y a eu des faits de violence les concernant. Je crois me souvenir que sa fille a fait l'objet de brûlures de cigarettes dans le cou, si je me mémoire, et son fils avait reçu déjà des coups au préalable.
Et là où c'est compliqué, c'est que vous me disiez tout à l'heure hors antenne que probablement sont-ils encore avec elle aujourd'hui? Sont-ils revenus avec elle, tous les deux?
Tout me porte à penser qu'ils sont revenus dans le giron maternel, ce qui va d'ailleurs provoquer de très gros problèmes à terme, étant donné que sa fille, notamment, a été mère de famille alors qu'elle n'était pas encore majeure, elle avait 17 ans à son premier enfant, et lors de la dernière audience,
elle était enceinte,
oui. Donc il y a au moins deux enfants à son actif, qu'elle est toute jeune majeure.
Les deux grands, plus les deux bébés, plus la mère, tout ça quelque part en région parisienne.
Exactement.
Vous n'avez plus aucun contact avec ces enfants, vous le souhaiteriez. Est-ce qu'au fond, vous avez noué avec eux, puisque vous avez partagé un peu leur martyr, un lien?
J'aurais aimé rester en contact avec les uns comme les autres. Bon, exception faite, bien sûr, de
Zaka,
ce qui est tout à fait normal. Maintenant, la situation étant extrêmement complexe, il y aurait là, je sois tenté de dire, un véritable conflit d'intérêts.
Oui.
Sachant que j'ai porté plainte contre une mère, contre une sœur, contre un membre de la famille, si je reste en contact et pourtant je pense à eux chaque jour avec une certaine affection, parce que tous sont certes leur histoire collective est assez complexe, notamment de par la mort du père de Nadia,
qui s'est suicidé
effectivement. Donc cela a durement marqué cette famille, et il y a des séquelles qui sont absolument incontestables. Maintenant, cela ne justifie aucunement ce qu'elle m'a fait subir.
La mère et le frère ont un rôle extrêmement ambigu, parce qu'en vérité, ils savent exactement ce qui vous arrive. Peut-être n'êtes-vous pas le premier, d'ailleurs, à vivre ça. Et il vous aide, elle vous donne à manger. Lui est celui qui va faire passer le message à vos parents. Mais en même temps, il ne s'interpose pas physiquement entre elle et vous.
Eh bien, Christophe, ça n'est pas du tout évident par rapport à la situation. D'un côté, certes, je suis dans une situation de danger clairement à considérer comme extrême. Mais d'un autre... Leur très grosse difficulté est de contrer les actions d'un membre de leur propre famille, de leur sang.
Oui.
Et ça, ce n'est pas évident. Donc, je comprends tout à fait la difficulté qu'ils avaient à intervenir. Et même si leurs moyens étaient certes très limités, ils m'ont permis de pouvoir tenir la distance, ce qui m'a permis, à terme, de pouvoir sortir de là. Certes, en un seul morceau, même si j'avais des blessures extrêmement importantes, tant en termes de volume que d'importance, mais c'est grâce à eux, exclusivement, ainsi que grâce à l'intervention de mes proches et de du commissariat de police Paris 11, que je suis sorti vivant de là. quelques semaines de plus et certes mon nom serait sûrement apparu dans les médias, mais dans la rubrique entre guillemets chien écrasé.
Vous êtes hospitalisé deux fois. À ce moment-là, vous êtes à l'hôpital. Il y a un point de rupture physique avec Zakia. Vous pouvez appeler vos parents. Est-ce que c'est parce qu'au fond vous avez honte que vous ne les appelez pas?
Bien,
il y avait honte de ne pas leur raconter une belle histoire.
Non, certes, il y avait, en ce qui me concerne, une gêne énorme, puisque au moment des faits, la question des violences conjugales subies par les hommes était quelque chose d'extrêmement tabou.
Oui, elle l'est toujours.
Beaucoup moins. Il y a eu une évolution assez importante entre temps. Dieu merci. Bon, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais il y a eu quand même malgré tout une prise de conscience au moins, et ça c'est une chose importante. Maintenant, quand je parle de on, je parle sur un plan collectif. L'abcès a été percé, maintenant il faut le vider dans les formes. Et par rapport à cela, si vous me permettez, oui. Je souhaitais juste ajouter une chose par rapport à ma position en la matière. Puisque par rapport à toutes les intentions qui sont faites, ma situation, il y a, bon certes, les femmes à droite, enfin les femmes à gauche, il fallait intervenir, certes. Maintenant, pour ma part, je ne vois ni femme ni homme. Je vois avant tout des êtres humains. Un homme, au même titre qu'une femme, a deux bras, deux jambes, une tête, a également des pensées, des craintes, des doutes, des douleurs qu'il peut ressentir, des aspirations. C'est à l'identique. Il n'y a pas de différenciation à faire.
Et vous êtes devenu depuis un défenseur de ce numéro de téléphone qui est le 3919, qu'on appelle en général violence femme info, mais qui pourrait être violence homme info aussi. C'est-à-dire que le même numéro permet aussi de signaler une femme maltraitante.
Sur le plan théorique.
Oui, en pratique.
Dans la pratique, c'est un peu différent puisque je suis amené à penser que le personnel aurait besoin d'une
un peu de formation,
d'une requalification en la matière, un reparamétrage si on veut.
Merci Maxime Gagé d'avoir accepté de re-raconter cette histoire telle que vous la racontez dans ce livre, donc Ma compagne, mon bourreau, paru chez Michalon en 2015 et qui vient de sortir en livre de poche chez J'ai lu.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.